Le 1er septembre dernier, il y a donc 14 jours exactement, il y a deux semaines, nous étions ici à cette émission à surveiller, notamment avec notre météorologue Gilles Brien, l'évolution de cet ouragan, ce système énorme qu'allait devenir l'ouragan de catégorie 5, Dorian. Le 1er septembre et le 2 septembre, lentement, puisque cet ouragan n'avançait pas, il était stagnant, il atteint donc la catégorie 5 à quelques kilomètres à l'est de Grand Abaco et de sa principale ville, Marsh Harbor. On a enregistré des vents soutenus pendant quelques minutes à tout le moins de 315 km/h avec des rafales à 355 km/h. Dorian est donc devenu l'ouragan qui a soufflé le plus fort dans le bassin Atlantique depuis qu'on tient des statistiques. Et puis, évidemment, sa pression avait chuté à 911 et il s'est abattu avec une force inouïe sur Grand Abaco et Grand Bahama. Nous avions parlé ce matin-là à Chad Bourassa, qui, avec sa famille, avait décidé de demeurer à Marsh Harbor pour essayer de composer finalement avec le passage de cet ouragan. Deux semaines plus tard, le bilan est absolument effroyable. Le secrétaire général des Nations Unies a dit « c'est un ouragan de catégorie enfer ». Chad Bourassa est de retour des Bahamas. Chad, bonjour.
Bonjour, M. Reed. Comment allez-vous?
C'est à moi de vous demander comment vous allez, Chad. Vous avez évité...
Vous ne répondez jamais à mes questions. Je me demande toujours comment vous allez. Vous ne répondez pas.
Je ne vous réponds pas. Savez-vous pourquoi, Chad? Je sais que vous faites une boutade. Vous me demandez... Je trouve que c'est tellement pas important de savoir comment je vais par rapport à votre famille, vos concitoyens de Grand Abaco. C'est épouvantable ce qui est arrivé, finalement.
Oui. Nous, ça va bien. Ça fait une semaine qu'on est revenu au Québec. On est sorti, puis on a passé la semaine à aller voir les médecins pour être sûr qu'on est correct. Là, on a certaines choses, là, puis on s'est recomposé comme une famille ici pour voir ce qu'on va faire. Là, puis c'est ça. Là, fait que, nous, ça va bien. Là-bas, ça a été... On se rappelle quand on discutait que c'était devenu une catégorie 5 aux instants qu'on parlait. Mais on s'attendait pas à une super catégorie 5. Vous savez que les météorologues puis les gens de NOAA, l'Institut, commencent à penser à donner une catégorie 6, là, parce que ça va au-dessus de ce qu'ils ont jamais vu ou jamais enregistré. On avait parlé d'une vague de 10 à 15 pieds. Ce qu'ils nous ont rapporté, c'était une vague de 27 pieds. Après qu'on soit parlé, la tempête a pris beaucoup plus d'ampleur encore, a pris beaucoup plus de force. Là, il était parfait. Ça a décimé l'île. Il y a beaucoup de morts qui n'ont pas été enregistrés encore. Des gens disparus, je crois qu'ils disaient qu'il y en avait près de 2500. C'est peut-être pas le nombre. Il y a beaucoup de gens qui se sont évacués, qui ont été évacués puis qui n'ont pas été... sont peut-être pas rapportés encore. Mais un des problèmes qu'on a, c'est qu'il y avait un bidonville, une place qui s'appelait le Mud et Pigeon Peas, qui était proche du port, c'est des terrains très bas. Il y avait beaucoup de réfugiés, des gens, des immigrants pas nécessairement enregistrés ou... qui sont pas même le gouvernement ne savait pas combien de personnes étaient là. C'est un problème que les gens, le gouvernement, ça fait des générations qu'ils essaient de régler tout ça. Probablement 90% de ces personnes-là qui vivaient dans ce bidonville-là, c'est des gens d'origine haïtienne, que ils avaient fui leur pays pour essayer de trouver un meilleur monde pour leur famille puis essayer de vivre. Il n'y a pas grand-chose. Il ne reste pas rien à cette affaire-là.
Il reste rien. Hein? On a vu des images, notamment du secteur que vous parlez, là, près de Marsh Harbor. Il reste rien. C'est la dévastation totale.
Oui, il y a quelques... dans la communauté que je vivais, on vivait dans une communauté. C'est très drôle. Là. Il y a des maisons qu'on aurait pensé qui auraient été vraiment frappées, qui étaient en entrée du canal. Ils ont survécu. Ils ont des fenêtres brisées, un petit peu de dommages au toit. tandis que d'autres qu'on aurait pensé étaient plus insulaires à l'intérieur du canal, où qu'on était, nous, on était plus. Ce qu'on n'avait pas pu prévoir, nous, où qu'on était assis dans la maison, c'était la vague qui est venue du harbor, de l'autre côté de l'île. Ça fait qu'elle passait par-dessus la terre, puis elle est venue chez nous, inondée. Fait qu'on n'avait pas. Quand on s'est préparé pour la tempête, on a parlé à tous les gens qui avaient vécu Floyd. Floyd, c'était la pire ouragan qui avait frappé Marsh Harbor ou Zabacos. Et puis, la tempête était tellement différente, beaucoup plus forte. Il y a certains préparatifs qu'on n'a pas pu. On n'a pas pu se préparer pour, mais on s'en est bien sortis.
Chad Bourassa, qui, avec sa famille, a vécu le passage de Dorian, catégorie 5, qui s'est acharné pendant près de 48 heures, 32 heures très certainement en tout cas, stagnant sur deux grandes îles des Bahamas au nord-ouest. Chad, racontez-nous quand vous avez commencé vraiment à avoir peur, c'est-à-dire quand vous avez eu les premières manifestations extrêmes de l'ouragan. Comment ça s'est passé?
Je dirais peut-être vers midi, une heure, peut-être. Le temps a filé. Les journées ont filé. Je pourrais le décompte des journées, des heures, c'est extrêmement difficile de vous dire. Dans le moment, il faut que je regarde mon calendrier pour savoir si c'est dimanche. Mais probablement un petit peu avant l'œil. On avait eu des shutters qui ont arraché. Puis on a vu, on voit, tu sais, les fenêtres étaient exposées, puis devant chez nous, c'est des terres, puis il y a une colline juste en avant de chez nous. Il y avait à peu près 5 pieds d'eau aux fenêtres. Fait que l'eau a commencé à rentrer par les portes, par les petites crevasses. On avait mis des sacs de sable, tout ça. On était correct. Hein. Le refoulement des goûts était peut-être probablement, c'était le pire. Hein. Mais, à l'œil, on a pris la décision de quitter pour aller sur des terrains hauts. Puis c'est là, probablement, vous avez vu la vidéo là, où on a passé à la télévision là, américaine.
Je voudrais parler de cette vidéo qui était bouleversante. Vous avez été emporté par les flots avec votre famille et vous êtes mis à un cheveu de la mort, Chad. Racontez-nous au moment. Ouais. On vous voit là, emporté par un débit d'eau absolument incroyable. Et effectivement, ça a passé sur le réseau américain ABC.
Ben, c'est pas exact ce que vous dites, M. Hood, là, mais on s'est rendu là. C'est juste qu'on cherchait à monter plus vers le nord, un petit peu, plus vers le sud, à cet endroit-là, parce qu'on voyait la terre sèche. Là, fait qu'on essayait de monter, mais c'était plus difficile. Puis les gens du réseau ABC nous criaient de nager. Puis on avait un ami québécois qui était avec nous, qui lui a nagé. Il s'est rendu de l'autre côté, puis nous avait expliqué qu'on pouvait se rendre. Si on n'atteignait pas l'endroit où il était, il y avait un autre endroit avant le canal puis la mer qu'on pouvait se rendre, qu'il était confiant qu'on était capable de se rendre puis qu'il nous attendrait. Fait que l'autre affaire, c'est, je veux vraiment clarifier sur ABC, c'est qu'à maintes reprises, on leur a demandé d'arrêter de nous filmer. Puis ils n'ont en aucune façon nous ont aidés à nous sauver.
Ben, c'est pour ça. Mais Chad, je suis content que vous nous disiez ça, parce que nous, l'impression qu'on avait en regardant les images d'ABC, c'est que justement, vous aviez été emporté par les eaux qui n'avaient plus moyen de rien faire et que vous avez survécu par miracle.
Non, on était à côté d'une maison, on aurait pu, que des fenêtres étaient défoncées, on aurait pu retourner dans cette maison-là. On était en deuil. On sait que notre temps était compté pour prendre une décision. Puis notre but, c'est avec les flots d'eau. On voulait aller à l'hôtel. Un de mes amis, Andrew Sweetings, qui est le propriétaire de l'hôtel, juste derrière nous, à Boto Beach Resort, il m'avait dit avant la tempête, c'est quoi, viens voir, viens voir, on va s'occuper des autres. Fait que nous, on s'en est vers le terrain haut. Parce que dans le moment, là, c'est la maison qu'on croyait qui était pour être compromis, fait qu'on voulait aller dans un terrain haut. Fait que on avait le choix là, à ce moment-là. Fait qu'on n'a pas été emporté, on a décidé de nager à travers. T'sais, le débit d'eau était fort, puis on savait que il y avait un risque. On avait une corde, je tenais dans la famille parce que mon monde sont tous 5 pieds 2, c'est pas des grandes personnes. Puis c'était calculé. Je veux dire, on a analysé la situation au fur et à mesure, on a essayé de gagner notre sang-froid. Puis on a réussi à traverser. Puis quand on est sorti, ils nous regardent. On pouvait voir dans nos visages qu'on n'était pas très content d'avoir une caméra dans nos visages.
Exact. Ça, on l'a bien vu sur la vidéo.
Puis nous, c'était, on avait une clôture à sauter, puis on s'en allait vers le shelter, pour se trouver un endroit pour. Parce que l'œil était déjà une heure, au moins une heure avancée. Notre chemin était habituellement, c'était peut-être 2 heures maximum. Fait que, tu sais, il fallait se rendre dans un shelter. Puis là, on avait une fille qui est une caméraman météo qui est venue voir nos filles pour nous passer une entrevue. Mais les filles ont réagi, ont parlé, ont répondu. Puis on riait, ça, c'est cool. Mais mettons que 2 jours après, après la tempête, elle s'est passée. On a vu le producteur. On l'a interpellé, puis s'est sauvé.
Ah oui?
Il voulait pas nous voir. Il sait ce qu'il a fait. Puis,
Chad, comment êtes-vous sorti d'Abaco?
Un bateau. Il y a un groupe de charter à Nassau qui. Premièrement, la compagnie a tout fait pour essayer d'envoyer un hélicoptère me chercher. Moi et ma famille. Le problème, c'était tous les hélicoptères étaient analysés à Nassau, puis il y a celle de Fort Lauderdale. Puis le gouvernement Bagné avait fait un stop sur le contrôle de l'espace aérien. Fait que ça prenait un permis pour pouvoir voler au-dessus de puis venir me chercher. T'sais, on voyait une base d'hélicoptères juste à côté de nous, dans ce haut resort, à The Cove Beach Resort. On voyait des hélicoptères rentrer et sortir à tous les jours, puis il y avait des gens qui se faisaient évacuer. La compagnie essayait. On n'était pas mal pris. Là. C'est sûr qu'on était tanné d'être là, puis on avait besoin de nos ressources. Je ne veux pas aller trop dans les détails, là, mais il y a un bateau qui est arrivé, puis il a dit soyez ici à midi et demi, puis on a embarqué dessus, puis ça a pris 3 heures, on s'est rendu à Nassau.
Okay. Alors, à Nassau, évidemment, sur l'île de New Providence, la capitale où l'ouragan a eu quelques effets, mais beaucoup moins importants que sur Grand Bahama et Grand Abaco.
Ça, c'est un point important. Le reste des Bahamas, ça n'a pas été touché. C'est des gens qui sont inquiets pour leurs vacances cet hiver. Eleuthera est parfait. Exuma, Nassau.
Eleuthera?
Non, même 35 km au sud, j'ai un client qui s'appelle Abaco Beach Resort. Là, pas l'Abaco Beach Resort, mais Winding Bay Club. Là, puis eux autres n'ont pratiquement pas d'effet. Là. C'est la seule affaire, c'est qu'ils n'ont pas d'électricité parce que la centrale, ils travaillent sur un génératrice, mais ils n'ont pratiquement pas eu. C'est 35 km sur la même île. Au sud, les habitants n'ont quasiment rien eu. C'est vraiment le cœur de l'île a été frappé.
Chad, quel est l'avenir? Quand je dis l'avenir, là, l'avenir à court terme, parce que, comme je disais, il y a 52 ou 53 personnes identifiées comme étant victimes de l'ouragan Dorian, mais on parle de plus de 1300 disparus. Quelle est votre opinion là-dessus, à savoir comment on va faire au cours des prochains jours et des prochaines semaines et des prochains mois à Marsh Harbor et à Grand Abaco, là où vous étiez installé avec votre famille?
Les gens, il y a beaucoup de ressources extérieures qui arrivent. Il y a des militaires Dutch, britanniques, les Américains, habituellement, sont là, qui aident. Ça va dépendre de comment le gouvernement va réagir, comment ils vont utiliser l'aide, comment ils vont bien gérer la situation. Il y a beaucoup de personnes qui sont là qui sont prêtes à rebâtir. Les gens, ils parlent, ils veulent rebâtir puis, au plus vite. Ils veulent garder l'élan puis reconstruire. C'est sûr que il y a beaucoup de choses à faire. Là. Je suis un peu déconnecté de tout ce qui se passe en ce moment. Ils vont rebâtir. Il faut rebâtir. C'est tellement une belle place, Marsh Harbor, les Abacos, la mer d'Abaco. Quand on était sur le bateau, on s'en allait en Nassau, là, ça commençait à recommencer d'être bleu. C'est le beau bleu le soleil était sorti, la mer était belle. Ça va reprendre vite. Les gens vont probablement, la grosse bataille, ça va être ramener de l'eau, l'eau pour la ville, l'eau pour les citoyens de la ville, et l'électricité. Une fois que ça va, ces deux ressources-là, les gens vont pouvoir bâtir et être dans un milieu vivable. T'sais.
Est-ce que vous comptez y retourner et quand?
Probablement vers la fin de cette semaine, quelque chose comme ça. J'attends les nouvelles de ma compagnie. Nos clients vont aller commencer à rebâtir nos installations. J'ai un client sur Great Wanakee, qui était une des îles qui a été frappée énormément. Pour aller recommencer à rebâtir les usines pour eux, puis les mettre en branle.
Chad Bourassa, on s'était parlé il y a deux semaines, on savait très bien que Dorian allait être un ouragan très fort et qu'il risquait de passer avec l'œil, donc le cœur de l'ouragan, directement sur Grand Abaco, Great Abaco. Et ça a été vraiment terrible. C'est pour ce matin-là, c'est le secrétaire général des Nations Unies, M. Guterres, qui est sur place à Marsh Harbor, et il a parlé d'un ouragan de catégorie enfer, a-t-il dit.
Oui, bien, je peux croire. Je savais qu'il y allait, il s'est rencontré M. Hanfield, qui est le ministre des Affaires étrangères, qui est le député du Nord d'Abaco. Il va y avoir beaucoup d'aide extérieure. Là. C'est sûr que. C'est une catégorie enfer. J'ai parlé à beaucoup de mes collègues qui étaient dans les West Virgin Islands, British Virgin Islands, puis Anguilla, ainsi de suite. Notre compagnie a beaucoup d'opérations. Puis on a parlé des événements, des ouragans qui sont arrivés il y a 2 ans. Puis eux, ils ont été frappés par des 5. Puis. Ils disent que celle-ci était vraiment beaucoup plus dévastatrice.
Absolument, absolument. D'ailleurs, je ne veux pas faire une surenchère de chiffres et puis de statistiques. C'est ridicule de faire ça, mais ça ne trompe pas. Dorian a été un ouragan historique pour le pire des raisons. À un moment donné, en tout cas, on a atteint des vents qu'on n'avait jamais mesurés auparavant dans le bassin atlantique. Alors, évidemment, Chad, merci beaucoup de nous avoir parlé. J'espère que vous allez bien récupérer, passer à travers tout ça, vous et votre famille. Et puis, je sais que c'est important que vous retourniez là-bas parce que votre travail va permettre d'aider à la reconstruction.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci
Chad, Chad Bourassa, qui était très calme quand on lui a parlé il y a 2 semaines, jour pour jour, le 1er septembre. Mais on savait très bien qu'un ouragan de catégorie 5 allait passer et pire encore, passer très lentement et demeurer plus de 36 heures au-dessus de 2 îles des Bahamas.